Aristote, Rhétorique, livre 2, chapitre 26. De l'exagération et de l'atténuation. 1. L'exagération et l'atténuation ne sont pas des éléments d'antimème. J'emploie dans le même sens le mot « élément » et « lieu », attendu que « élément » et « lieu » c'est ce à quoi reviennent beaucoup d'antimèmes. Mais l'exagération et l'atténuation sont des antimèmes pour montrer qu'une chose est de grande ou de mince importance, comme aussi qu'elle est bonne ou mauvaise, juste ou injuste, ou qu'elle a une quelconque des autres qualités. 2. Or, ce sont là toutes choses sur lesquelles portent les antimèmes et les syllogismes, de sorte que si chacune d'elles n'est pas un lieu d'antimème, il n'y a pas non plus exagération ou atténuation. 3. Les arguments qui servent à résoudre un antimème ne sont pas d'une autre espèce que ceux qui servent à en établir. Car il est évident que l'on résout, soit que l'on fasse une démonstration, soit que l'on apporte une objection. Or, on fait la contre-démonstration du fait opposé. Par exemple, si l'on a montré que tel fait a existé, l'adversaire montrera que ce fait n'a pas existé. Et si l'on a montré qu'il n'a pas existé, il montrera qu'il a existé, de sorte que ce n'est pas là que serait la différence, puisque tous deux emploient les mêmes moyens, produisant des antimèmes comme quoi le fait n'est pas ou qu'il est. 4. L'objection n'est pas un antimème, mais ici, comme dans les topiques, objecter, c'est avancer une opinion de laquelle il ressort clairement qu'il n'y a pas eu syllogisme ou que l'on a allégué un fait inexact. 5. Voilà tout ce qu'il y avait à dire sur les exemples, les sentences, les antimèmes et généralement sur tout ce qui concerne la pensée, sur les ressources que nous pourrons y puiser et sur la manière d'en faire la solution. Il nous reste maintenant à traiter de l'élocution et de la disposition.